an 68 de l'ère des bunkers. Pluton. Rentrons sur Terre, murmura Chang-Sin. C'était ce désir qui avait fait surface au milieu du chaos ténébreux de ses pensées. La Terre est en effet le lieu idéal pour attendre la fin. Les feuilles qui tombent retournent à la racine, mais nous aimerions que le halo se rende sur Pluton, fit Tsao Bin.
Sur Pluton ?
Pluton est à son aphélie. Elle est encore relativement distante de l'espace bidimensionnel. Le gouvernement fédéral ne va maintenant plus tarder à annoncer au monde la nouvelle de l'attaque, et la plupart des vaisseaux convergeront dans cette direction. L'issue sera la même, mais vous gagnerez un peu de temps.
Combien de temps reste-t-il ?
L'ensemble du système solaire à l'intérieur de la ceinture de Kuiper aura sombré dans la deuxième dimension d'ici 8 à 10 jours. Qu'importe de gagner du temps, rentrons sur Terre, répéta A.A. Le gouvernement fédéral veut vous confier une mission.
Qu'y a-t-il encore à faire ?
Rien de très important. À cette heure, plus rien n'est vraiment important de toute façon. Une hypothèse a été émise selon laquelle il pourrait théoriquement exister un logiciel de traitement d'images capable de retridimensionnaliser les images des objets ayant chuté dans un espace bidimensionnel. Notre espoir est que dans un temps lointain, une civilisation intelligente puisse récupérer des images tridimensionnelles dans le système solaire en 2 dimensions. Ce seront certes des images mortes, mais au moins, la civilisation humaine ne sera pas complètement éteinte. Il existe sur Pluton un musée de la civilisation terrienne où sont conservées une bonne partie des pièces archéologiques les plus précieuses de notre histoire. Le musée est bâti sous la surface et nous craignons que, durant le processus de bidimensionnalisation, ces objets ne se mêlent aux strates du sous-sol plutonien, ce qui les endommagerait gravement. Nous souhaiterions que vous chargiez quelques-unes d'entre elles sur le halo et que vous les disséminiez dans l'espace pour qu'elles soient bidimensionnalisées individuellement et donc préservées intactes. Voyez ça comme une sorte de mission de sauvetage. Bien sûr, cela relève de la science-fiction, mais il vaut mieux faire quelque chose plutôt que rester inactif. Et puis, Luoji se trouve sur Pluton et il souhaiterait vous voir.
Luoji ? Il est encore vivant ? S'écria A.A. stupéfaite.
Oui, il approche de ses 200 ans.
Soit, nous irons sur Pluton, dit Chang-Sin.
Dans le passé, ce voyage lui aurait paru extraordinaire, mais tout était dérisoire désormais. Soudain, une voix masculine bourdonna à leurs oreilles.
Je vous demande pardon, souhaitez-vous vous rendre sur Pluton ?
Qui êtes-vous ? Demanda A.A.
Je suis Halo, l'intelligence artificielle du vaisseau. Souhaitez-vous vous rendre sur Pluton ?
Oui. Que devons-nous faire ?
Il vous suffit de confirmer votre destination. Je me charge de vous y conduire.
Bien. Nous souhaitons nous rendre sur Pluton.
Autorisation de départ confirmée. Opération en cours. Dans 3 minutes, Halo accélérera à 1G. Veuillez prendre garde à la direction de l'apesanteur.
Parfait, dit Tsao Bin. Le mieux est de partir tôt. Lorsque l'alarme aura été déclenchée, ça risque d'être la pagaille ici. Nous aurons peut-être la chance de nous reparler. Sans même attendre que Chang-Sin et A.A. lui disent au revoir, Tsao Bin ferma la fenêtre. Visiblement, le halo et les 2 femmes n'étaient maintenant plus sa priorité. En regardant par le hublot, elles virent apparaître des reflets bleutés sur la coque externe des cités spatiales combinées, ceux des lumières des propulseurs du halo. Chang-Sin et A.A. furent projetés dans un coin de leur cabine sphérique. Elles commençaient à sentir leur corps s'alourdir. La pesanteur générée par l'accélération atteignit vite 1G. Lorsque leurs corps encore faibles furent en mesure de se relever, elles regardèrent une nouvelle fois à travers le hublot et aperçurent Jupiter tout entière. Cependant, la planète était toujours aussi gigantesque et il était impossible de la voir rétrécir à l'œil nu. Après un certain temps, Chang-Sin et A.A. s'étaient familiarisés à l'environnement du vaisseau, bien aidés en cela par l'intelligence artificielle. Comme le modèle qui l'avait précédé,
Ce Halo de nouvelle génération était un vaisseau interstellaire de petite taille dont la capacité maximale était de 4 passagers. La majorité de l'espace intérieur était allouée aux écosystèmes autorégénératifs. Conformément à ce qui se faisait d'ordinaire pour ce genre d'appareil, les écosystèmes étaient extrêmement redondants et l'espace dont ils bénéficiaient permettait au bas-mot de nourrir 40 personnes. Il se trouvait à bord 4 écosystèmes autorégénératifs similaires, reliés entre eux et servant d'écosystèmes de sauvegarde. Si l'un d'eux venait à dysfonctionner, il pourrait être réactivé grâce à l'abondance de ressources des autres écosystèmes. Une autre particularité du Halo était sa capacité à pouvoir se poser directement sur le sol de planètes rocheuses de masse moyenne. Cette caractéristique était rare chez les vaisseaux interstellaires. La plupart des engins étaient dotés de navettes spatiales amarrées au vaisseau. Pour entrer directement dans le profond puits gravitationnel d'une planète, il fallait que le vaisseau soit assez puissant, ce qui avait naturellement un coût. Pour pouvoir entrer dans l'atmosphère, le Halo était doté d'une coque externe fuselée, un style rare pour les vaisseaux interstellaires. En raison de ses singularités de conception, si le Halo parvenait à trouver une lointaine planète tellurique, il pourrait servir de base de survie pendant un long moment à sa surface. C'était peut-être justement cette particularité du Halo qui lui avait valu d'être envoyé sauver des antiquités sur Pluton. Beaucoup d'autres particularités étonnantes pouvaient être observées à bord du vaisseau. C'était par exemple le cas des 10 cours intérieures d'environ 20 à 30 mètres carrés qui pouvaient chacune s'adapter automatiquement à la direction de la force de propulsion lors des phases d'accélération et entrer d'elles-mêmes en rotation lorsque le vaisseau était en vol libre, de manière à générer une gravité artificielle. Chaque cour figurait des paysages naturels différents. Une prairie vert émeraude traversée par un ruisseau, un petit bois bordé par une source chantante, une plage de sable où venaient se jeter les vagues d'une eau pure. Ces paysages minuscules n'en étaient pas moins exquis. C'était comme un collier fait avec les plus belles perles de la Terre. Bénéficier de telles scènes à bord d'un vaisseau interstellaire suffisait à montrer le degré de luxe du Halo. Cheng Xin éprouvait de la douleur et de la compassion en considérant le vaisseau. Ce petit monde si parfait finirait par devenir une simple tranche sans épaisseur. Elle s'efforçait de ne pas penser à toutes ces autres merveilles qui seraient bientôt anéanties. L'annihilation à venir était une paire d'ailes noires gigantesques recouvrant le ciel de ses pensées, et elle n'osait pas lever la tête pour les regarder. Après 2 heures de vol, le Halo reçut l'alerte officielle d'une attaque de la Forêt Sombre que le gouvernement fédéral venait d'adresser à l'ensemble de la communauté internationale. Le communiqué de l'alarme était lu par la présidente de la Fédération, une femme très jeune, à la voix inexpressive. Elle se tenait debout devant le drapeau bleu de la Fédération solaire et Cheng Xin put remarquer qu'il ressemblait beaucoup à l'ancien drapeau de l'ONU, si ce n'est que l'image du soleil s'était substituée à celle de la Terre. Ce qui serait la dernière archive officielle de l'histoire humaine se limitait aux quelques phrases suivantes. Il y a 5 heures, le dispositif d'alerte du système solaire a confirmé qu'une attaque de la Forêt Sombre avait été lancée contre le système solaire. Cette attaque est de nature dimensionnelle. Elle aura pour conséquence de faire s'effondrer l'intégralité du système solaire depuis la 3e vers la 2e dimension, entraînant ainsi la destruction de toute forme de vie dans notre système. Selon nos estimations, le processus sera achevé en 8 à 10 jours à compter de cette annonce. L'espace tridimensionnel du système solaire est en ce moment même en train d'être bidimensionnalisé et l'étendue de la zone touchée augmente rapidement. Nous avons pu confirmer que la vitesse de libération qui permettrait de s'échapper de cette zone correspondait à la vitesse de la lumière. Il y a 1 heure, le gouvernement et l'Assemblée de la Fédération du Système solaire ont convenu d'adopter une résolution rendant désormais caduque toute loi portant sur l'évasionnisme. Mais nous tenons à rappeler à l'ensemble des citoyens que les appareils humains aujourd'hui disponibles sont très loin d'atteindre la vitesse de libération. Les chances de réussite en cas de fuite sont nulles. Le gouvernement, l'Assemblée
la Cour suprême et la flotte de la Fédération du Système solaire s'acquitteront de leur mission jusqu'à la fin.
Chung-Sin et A-A ne prirent pas la peine de regarder davantage d'informations. La vie dans le monde des bunkers était peut-être devenue paradisiaque, comme le prétendait Cao Bin, et elles auraient aimé le voir de leurs yeux. Mais elles n'osaient plus. C'était la fin, et plus beau leur paraîtrait le monde, plus grand serait leur chagrin à l'idée de le perdre. Elles risqueraient de voir un paradis sur le point de s'écrouler, un Éden en proie à la peur et au chaos. Le halo cessa d'accélérer. Derrière lui, Jupiter n'était déjà plus qu'un point jaune. Chung-Sin et A-A passèrent les jours qui suivirent à dormir d'un sommeil ininterrompu, grâce aux appareils d'assistance somnique dont le vaisseau était équipé. Dans ce voyage solitaire à travers la nuit qui précédait la destruction de tout, la moindre pensée vagabonde et irréfrénable menaçait de faire s'effondrer n'importe quel individu. Lorsque Chung-Sin et A-A furent réveillés de leur sommeil sans rêve par l'intelligence artificielle, le halo était déjà à l'approche de Pluton. Derrière le hublot et sur l'écran du moniteur de surveillance du vaisseau, on pouvait déjà voir la totalité de la planète naine. Les deux femmes furent tout de suite frappées par son obscurité. C'était comme un œil qui paraissait immuablement clos. À une distance aussi lointaine du soleil, les rayons solaires étaient très faibles et Chung-Sin et A-A ne purent avoir une vague idée des couleurs présentes à la surface plutonienne que lorsque le halo fut entré en orbite basse. Le sol de Pluton se composait d'un mélange de bleu et de noir. Noir comme les roches de la naine. Ce n'était peut-être pas là leur véritable couleur, mais elle se présentait comme telle en raison de l'obscurité qui régnait sur ce monde. Le bleu, lui, était dû à la glace d'azote et au givre de méthane. Deux siècles en arrière, tandis que Pluton se trouvait à son périhélie, à l'intérieur de l'orbite de Neptune, le monde leur serait apparu bien différemment. La glace aurait été fondue, créant une mince atmosphère qui leur aurait semblé de loin jaune foncé. Le halo continua de descendre. Sur Terre, l'entrée dans l'atmosphère aurait été terrifiante, mais ici, le vaisseau naviguait dans le vide et pouvait ralentir grâce à ses propulseurs. À cet instant, quelques mots émergèrent sur la terre bleue et noire en dessous d'eux. Civilisation de la Terre. L'association des mots combinait écriture latine et chinoise. Juste derrière ceux-ci figuraient d'autres lignes de texte retranscrites pour leur part dans les principales langues anciennes. Chung-Sin remarqua l'absence du mot « musée ». Le halo était encore à une altitude d'environ 100 km au-dessus du sol, ce qui permettait d'imaginer la taille de ces lignes d'écriture. Chung-Sin avait du mal à l'estimer, mais elle était certaine que c'étaient les unités d'écriture les plus colossales jamais écrites par des humains. Chacune devait pouvoir contenir une métropole entière. Quand le halo ne fut plus qu'à 10 000 mètres de la surface, Chung-Sin et A-A n'étaient plus en mesure de voir qu'un seul des caractères. Le vaisseau finit par se poser sur une vaste piste d'atterrissage correspondant à l'emplacement du caractère Tsio. Suivant les instructions de l'intelligence artificielle, Chung-Sin et A-A revêtirent leur combinaison spatiale légère et sortirent du halo. Elles longèrent l'échelle de l'appareil et se retrouvèrent à la surface de Pluton. Dans cet environnement d'une froideur terrifiante, le système thermique de leur combinaison fonctionnait à pleine puissance. La piste d'atterrissage était blanche, et sous la lueur des étoiles, elle semblait presque phosphorescente. À en juger par les traces de brûlures laissées sur la piste, on devinait qu'elle avait dû accueillir bien des vaisseaux dans le passé. Mais à cet instant, le halo était le seul engin présent. À l'ère des bunkers, Pluton était devenu l'équivalent pour le système solaire de l'Antarctique pour la Terre, un lieu peu fréquenté où personne ne s'installait définitivement. Dans le ciel, une sphère noire se déplaçait rapidement entre les étoiles. L'objet céleste était volumineux, mais on ne distinguait aucun détail à sa surface. C'était Charon, le plus grand satellite de Pluton, dont la masse atteignait un dixième de celle de Pluton.
le couple Pluton-Charon formait en réalité un système binaire dans lequel les deux corps orbitaient autour d'un centre de masse commun. Les projecteurs du halo s'allumèrent. En l'absence d'atmosphère, on ne voyait aucun faisceau de lumière, seulement les cercles lumineux illuminant au loin une forme rectangulaire noire. Une stèle, qui paraissait être la seule protubérance sur ce sol lisse et blanc. Sa simplicité procurait un sentiment étrange. Elle semblait être une abstraction du monde réel. « Cette stèle me dit quelque chose, » dit Chung-Sin. « Pas à moi, et elle ne me fait pas bonne impression. » Toutes deux marchèrent en direction du monolithe, quoique la pesanteur plutonienne équivalente à environ un dixième de la gravité terrestre, il eût été plus juste de dire qu'elles avançaient en bondissant. En chemin, elles découvrirent sur le sol des rangées de flèches invitant à suivre la direction de la stèle. Ce ne fut qu'une fois parvenues devant cette construction qu'elles prirent conscience de sa taille extraordinaire. Quand elles levèrent la tête pour l'examiner, la stèle leur donna l'impression d'être un morceau qu'on aurait arraché à la voûte étoilée. Elles regardèrent autour d'elles et constatèrent qu'il n'y avait pas qu'une rangée de flèches, mais un grand nombre. Toutes désignaient la stèle. En dessous de celle-ci, elles remarquèrent un autre objet en relief, une roue métallique d'un mètre environ de diamètre. Chung-Sin et A-A eurent la surprise de découvrir que la roue s'actionnait à la main. Sur la stèle, juste au-dessus de la roue, un schéma était gravé. Des flèches courbes indiquaient la direction dans laquelle la roue devait être tournée. Deux portes étaient également représentées à côté de ces flèches, l'une ouverte et l'autre fermée. Chung-Sin se retourna pour examiner les flèches qui pointaient la direction de la stèle. Ces indications simples, claires et sans le moindre support écrit, laissaient une impression mystérieuse, qu'A.A. formula en ces mots. « On dirait que tout ça n'est pas destiné aux humains. » Elles firent tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Malgré la résistance du mécanisme, la stèle glissa légèrement pour laisser place à une ouverture de laquelle s'échappa du gaz. Les molécules d'eau contenues à l'intérieur du gaz se cristallisèrent rapidement sous l'effet du froid et se mirent à chatoyer sous la lumière des projecteurs du halo. Elles entrèrent et tombèrent sur une autre porte qui comportait elle aussi une roue manuelle. Encore une fois, des indications simples expliquaient qu'elle se trouvait dans un sas et qu'elle devait d'abord fermer la première porte avant d'ouvrir la seconde. Chung-Sin et A-A suivirent la consigne et refermèrent la première porte. Coupée de la lumière des projecteurs du halo, elle s'apprêtait, quelque peu angoissée, à allumer l'éclairage interne de leur combinaison lorsqu'elles aperçurent une petite lampe blafarde au plafond de cet espace exigu. C'était la première trace d'électricité qu'elle voyait sur ce monde. Par ailleurs, il y avait bien longtemps, en fait, depuis la fin de la Grande Crise, qu'on pouvait ouvrir des portes donnant directement sur le vide sans avoir besoin de sas à l'intérieur des bâtiments pressurisés. Elles commencèrent à faire pivoter la roue de la deuxième porte. Chung-Sin avait la certitude que même si la première porte n'avait pas été fermée, la seconde aurait pu s'ouvrir aussi. Il n'y avait ici rien d'autre que ce renseignement pictural pour éviter une fuite d'air. Dans cet environnement de basse technologie, aucun mécanisme automatique n'était destiné à prévenir une erreur. Un courant d'air manqua de les faire tomber et leurs visières se retrouvèrent embuées à cause de l'augmentation brutale de température. Mais le système de leur combinaison leur indiqua que la pression extérieure et la composition en oxygène de l'air étaient normales. Elles purent donc ôter leur casque. Elles virent un tunnel éclairé par des lampes ternes qui descendaient sous la terre. Leur lumière semblait engloutie par les parois noires de la grotte, et tous les paliers entre les lampes étaient plongés dans l'obscurité. Elles découvrirent une pente glissante menant au bout de la galerie, qui, bien qu'escarpée, environ 35 degrés, ne comportait aucune marche. Deux raisons pouvaient l'expliquer. D'une part, on n'avait pas besoin d'escalier pour se déplacer dans une pesanteur faible, et d'autre part, ce chemin n'était pas forcément destiné à des humains. « C'est si profond. Il n'y a donc aucun ascenseur ?» demanda A.A. en toisant avec appréhension la rampe abrupte. « Un ascenseur finit toujours par tomber en panne au bout d'un certain temps. Or, cet édifice est conçu pour survivre à plusieurs aires géologiques.
Cette voix provenait de l'autre bout du tunnel, où un vieil homme avait fait son apparition. Il se tenait debout dans la clarté. Sa longue barbe et ses cheveux blancs flottaient sous l'effet de la faible pesanteur. Il semblait presque que c'était d'eux qu'émanait la lumière.
« Êtes-vous Luoji ?»
lança A.A. à voix haute.
« Qui d'autre ?»« Les enfants, mes jambes ne sont plus aussi agiles qu'autrefois. Je ne monte pas à vous chercher. Je vous attends ici. »
Chung-Sin et A.A. sautillèrent pour descendre la pente, ce qui n'était pas dangereux en faible pesanteur. À mesure qu'elles comblaient la distance avec lui, elles arrivèrent à discerner les traits du visage du vieillard et reconnurent Luoji. Vêtu d'une longue robe blanche à la chinoise, il était appuyé sur une canne. Son dos était voûté, mais sa voix, fraîche et sonore. Quand elles furent arrivées en bas de la pente, Chung-Sin salua respectueusement Luoji.
« Bonjour, illustre prédécesseur. »
« Allons, allons !» sourit Luoji en secouant la main. « Nous sommes collègues !»
Il examina Chung-Sin et une surprise presque juvénile se dessina dans son regard de vieillard.
« Hé hé, tu es encore si jeune. À l'époque, tu n'étais rien d'autre à mes yeux qu'une porte-épée, mais maintenant, je vois une jolie fille. Ah, tout change si vite.
Luoji lui aussi avait changé dans le regard de Chung-Sin et A.A. Elle ne voyait plus le porte-épée grave et solennel qu'elles avaient déjà rencontré. Elles ignoraient que ce Luoji avait retrouvé l'insouciance qui était la sienne il y a 4 siècles, avant qu'il ne devienne colmateur. Son cynisme et sa facétie semblaient s'être réveillés d'une longue hibernation, et ce qui avait été effacé par le temps avait été comblé par une nonchalance plus grande encore.
« Savez-vous ce qui s'est passé ?» demanda A.A.
« Bien sûr, mon enfant. »
Il leva sa canne et la pointa dans son dos.
« Ces bons à rien se sont enfuis. Ils sont partis avec leur vaisseau. Ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas s'échapper, mais ils ont tout de même fui, une bande d'abrutis. »
Il parlait des autres employés du musée de la civilisation de la Terre.
« Mon enfant !» « Il faut croire que tous les deux, nous avons travaillé pour rien. »
lâcha Luoji en haussant les épaules. Chung-Sin ne comprit ce qu'il voulait dire qu'après un long moment, mais le déluge de pensées et d'émotions qui commençait à la submerger fut encore une fois chassé par Luoji, qui agita la main en ajoutant
« Tout ça n'est pas si grave. Il faut vivre pour le plaisir de l'instant. » Et même s'il y a moins de plaisir aujourd'hui, cela ne vaut pas la peine de se chercher des soucis pour autant. Bien, allons-y. Non, pas la peine de m'aider, vous n'avez même pas encore appris à vous déplacer correctement ici. »
Avec ses jambes de bicentenaire, le plus dur pour Luoji en faible pesanteur n'était pas d'accélérer mais de décélérer. La canne qu'il tenait dans la main lui servait davantage à ralentir qu'à se tenir en équilibre. Après avoir marché un moment, l'espace devant leurs yeux devint plus vaste, mais Chung-Sin et A.A. réalisèrent vite qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un tunnel plus large, au plafond très élevé. Il était toujours éclairé par des rangées de petites lampes. Dans la pénombre, on n'en voyait pas l'extrémité.
« Vous vous trouvez ici dans la salle principale, »
expliqua Luoji en désignant le tunnel avec sa canne.
« Et les antiquités ?»
Dans le grand entrepôt, de ce côté, mais cela importe peu. Combien de temps pourront-elles être conservées? 10 000 ans, 100 000, 1 000 000 tout au plus, puis tout sera transformé en poussière. Mais tout cela, nous avons l'intention de le préserver pendant plusieurs centaines de millions d'années.
Comment?
Vous avez cru que c'était un musée?
Non, personne ne vient visiter cet endroit, il ne se visite pas. Vous êtes ici devant une pierre tombale, celle de l'humanité.
Chung-Sin observa cette caverne vide, sombre et silencieuse, et repensa à ce qu'elles avaient vu en arrivant ici. En effet, tout ici était plein de signes de mort.
« Comment en est-on arrivé à vouloir construire ceci ?»
demanda A.A. dont le regard allait de gauche à droite.
« Mon enfant, tu es trop jeune. À notre époque, »
il désigna Chung-Sin,
Les hommes s'arrangeaient souvent pour essayer de trouver, de leur vivant, une future sépulture à leur convenance. Il n'était pas toujours facile de trouver son cimetière, mais ils pouvaient déjà choisir leur pierre tombale. Il demanda à Chung-Sin. « Te souviens-tu de Sei ?» Chung-Sin hocha la tête. « Bien sûr !» 4 siècles plus tôt, quand elle travaillait au sein de l'ARP, Chung-Sin avait eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises celle qui était alors secrétaire générale des Nations Unies. La dernière fois, c'était lors d'une réunion de rapport sur le programme Escalier. Wade était présent, lui aussi. Elle se souvenait avoir effectué une présentation portant sur les aspects techniques du programme porté par l'agence. Sei l'avait écouté silencieusement sans l'interrompre, puis au moment où la réunion s'était terminée, Sei s'était approché d'elle et lui avait murmuré « Tu as une très belle voix ». C'était une femme extraordinaire. Il m'est arrivé souvent de repenser à elle ces dernières années. Est-elle vraiment une ancêtre disparue depuis 400 ans ? Soupira Luoji en saisissant sa canne avec les deux mains. C'est elle qui, la première, a souligné l'importance de préserver une partie du patrimoine de la civilisation humaine le plus longtemps possible après son extinction. Sa première idée avait été d'envoyer des pièces culturelles et des informations sur l'humanité dans un vaisseau inoccupé. Mais le projet a été dénoncé comme évasionniste et il a dû être interrompu après sa mort. Les hommes se sont souvenus de son idée au début du chantier des bunkers, quand on a commencé à s'inquiéter que le monde puisse disparaître à tout moment. Au lendemain de son investiture, le gouvernement fédéral a donc décidé qu'une pierre tombale serait construite en même temps que les cités spatiales. Mais on l'appellerait publiquement « Musée de la civilisation de la Terre ». J'ai été nommé président du comité responsable de ce projet. Des recherches importantes ont tout d'abord été menées pour trouver la meilleure méthode de conservation des informations sur une échelle de temps géologique. Le premier étalon a été fixé à 1 milliard d'années. 1 milliard. Ces imbéciles croyaient que ce serait facile. Si l'humanité était capable de bâtir le monde des bunkers, ça ne devait pas être si dur, non ? Mais ils ont très vite compris que les mémoires quantiques d'aujourd'hui, qui pouvaient certes contenir l'équivalent d'une gigantesque bibliothèque dans un grain de riz, ne pouvaient néanmoins conserver des informations que durant 1000 ou 2000 ans. Passé cette durée, les informations contenues ne seraient plus lisibles. En fait, les études montraient même que les mémoires quantiques, les mémoires artificielles les plus puissantes et les plus ordinaires de notre temps, deviendrait pour les 2/3 obsolète en 500 ans. Les choses devenaient intéressantes. Notre projet, qui paraissait détaché des préoccupations du monde, posait désormais des problèmes concrets. 500 ans représentait une durée concevable. Après tout, ne sommes-nous pas des humains nés il y a 4 siècles ? Le gouvernement a immédiatement suspendu les programmes de recherche portant sur le musée lui-même et demandé que les efforts se concentrent désormais sur l'étude de la méthode de sauvegarde d'informations la plus efficiente, de manière que celle-ci puisse être consultable dans 5 siècles. Finalement, un institut de recherche a été créé pour réfléchir spécifiquement à ce sujet et nous avons pu nous concentrer à nouveau sur le chantier du musée, de la pierre tombale. Les scientifiques ont réalisé qu'en matière de stockage d'informations de longue durée, les techniques datant de notre époque étaient encore les meilleures. Ils ont retrouvé des clés USB et des disques durs datant de l'ère commune, et les données stockées dans certains pouvaient encore être récupérées. Leurs expériences ont montré que si l'on améliorait la qualité de ces supports, ils seraient capables de conserver des informations pour une période de 5000 ans environ. Les disques optiques s'avéraient particulièrement résistants. Construits avec des matériaux métalliques contemporains, ils pourraient conserver des informations pendant 100 000 ans. Mais aucun de ces dispositifs ne pouvait rivaliser avec des textes imprimés. En utilisant une encre spéciale et du papier synthétique, ils pouvaient encore être lus après 200 000 ans. Mais nous devions atteindre 1 milliard d'années. Nous avons adressé un rapport au gouvernement en indiquant qu'en l'état actuel de nos technologies, 10 gigaoctets d'images et 1 gigaoctet de texte, soit la quantité d'informations de base requise pour le musée, ne pourraient jamais être conservées pendant 1 milliard d'années. Ils ne nous ont pas cru, et nous avons dû le leur prouver expérimentalement. Après quoi ils ont fini par abaisser le temps de conservation à 100 millions d'années. Mais la tâche n'était pas plus facile. Les experts se sont intéressés aux informations les plus anciennes qui nous avaient été léguées par le passé. Les motifs peints sur les poteries anciennes, 10 000 ans environ. Les peintures rupestres des grottes européennes, 40 000 ans. Les traces laissées par nos ancêtres hominidés sur des pierres pour bâtir des outils, si tant est que cela puisse être considéré comme information, remontaient au plus tôt à la période du Pliocène, il y a 2,5 millions d'années. Mais nous avons fini par trouver des informations vieilles de 100 millions d'années. Bien sûr, elles ne nous ont pas été laissées par des humains. Des empreintes de dinosaures. D'autres études ont été menées, mais sans aucune nouvelle avancée. D'autres scientifiques paraissaient pourtant être arrivés à une conclusion différente, mais ils n'osaient pas nous en faire part. Je leur ai dit de ne pas s'en faire que, peu importait l'extravagance ou l'absurdité de leurs conclusions, nous en prendrions acte. Je leur ai assuré qu'elles ne pourraient pas être plus extravagantes ou absurdes que toutes celles auxquelles nous étions déjà arrivés. Je ne me moquerais pas d'eux. Alors ils m'ont dit qu'à l'appui des théories et des technologies les plus avancées dans tous les domaines, après un grand nombre de recherches théoriques et expérimentales, après d'interminables analyses, synthèses et études comparatives, ils étaient enfin parvenus à mettre au point une méthode qui permettrait de conserver des informations pendant une période de 100 millions d'années. Ils m'ont assuré que c'était la seule technique qu'ils estimaient possible à ce jour. Cette méthode consistait à... Luoji leva sa canne au-dessus de la tête, ses cheveux et sa barbe s'agitant dans les airs, tel Moïse ouvrant la mer Rouge. Puis il tonna d'une voix solennelle « Gravez des mots dans la pierre !» Aa se mit à ricaner, mais pas Chung-Sin. Elle était profondément bouleversée. « Gravez dans la pierre !» répéta Luoji en désignant une nouvelle fois les parois de la grotte avec sa canne. Chung-Sin s'approcha de l'une des parois. Dans la lumière trouble des lampes, elle vit qu'elle était couverte de caractères compacts ainsi que d'images en bas-relief. Les parois ne semblaient pas être des roches naturelles, du moins pas totalement. On avait peut-être injecté du métal à l'intérieur ou bien leur surface avait été recouverte d'une couche de métal résistant, comme du titane ou de l'or. Mais il s'agissait, quoi qu'il en soit, de gravures faites dans la pierre. Le texte gravé n'était pas de si petite taille. Chaque caractère faisait environ 1 cm². C'était probablement un autre critère rentrant en ligne de compte dans la perspective d'une longue conservation. Si le texte était trop petit, il serait plus dur à préserver. Mais choisir cette méthode signifiait aussi limiter la masse d'informations susceptibles d'être stockées. Seul 1/1000 des données originales pouvaient ainsi être gravées. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix et ils ont fini par accepter cette condition, dit Luoji. Ces lampes sont étranges, déclara Aa. Chung-Sin regarda celle fixée à la paroi. Elle remarqua d'abord sa forme. Une main jaillissant du mur tendait une torche. Elle avait en effet déjà vu ce style de lampe, mais ce n'était apparemment pas de cette particularité que parlait Aa. Cette lampe en forme de torche était très grossière. Sa taille et sa structure rappelaient les lampes du passé, mais la lumière qu'elle diffusait était très faible, à peu près identique à celle d'une ampoule de 20 watts à travers un épais abat-jour, si bien qu'elle était à peine plus luisante qu'une bougie. Derrière, expliqua Luoji, l'espace accordé au mécanisme permettant la production d'électricité et assurant l'éclairage des lampes est énorme. C'est une sorte de centrale électrique. Ces lampes sont le résultat d'un travail extraordinaire. Elles ne comportent aucun filament ni aucun gaz excité. J'ignore ce qui leur fournit cette source de lumière, mais elles peuvent rester allumées pendant 100 000 ans. Quant aux deux portes que vous avez passées en entrant, On estime qu'elles pourront être ouvertes normalement pendant 500 000 ans. Après quoi elles seront déformées, et ceux qui voudront entrer dans cet endroit devront les forcer. Les lampes se seront alors éteintes depuis 400 000 ans, et l'obscurité règnera en maître sur ces lieux. Et cela ne sera que le début d'une période de 100 millions d'années. Chung-Sin ôta le gant de sa combinaison pour tâter les caractères gravés dans la roche. Puis elle s'adossa à la paroi et regarda, plongée dans ses pensées, les lampes accrochées au mur. Elle se souvenait maintenant où elle avait déjà vu de telles lampes. Sur la tombe de Rousseau, au Panthéon. Une main tenant une torche sortait de la tombe. La lueur blafarde des lampes ne semblait pas être fournie par de l'électricité, c'était des petites étincelles agonisantes.
« Mon enfant, j'ai l'impression que tu n'aimes pas beaucoup parler, » dit Luo-ji en s'approchant de Chung-Sin, avec une tendresse que cette dernière n'avait pas éprouvée depuis longtemps.
« Elle est toujours comme ça, » dit A-A.
« Moi, avant, j'aimais parler. Et puis j'ai oublié. Aujourd'hui, je suis redevenu une vraie pie.
« Mon enfant, j'espère que ça ne t'embête pas. »
Distraite, Chung-Sin sourit. « Non, pas du tout, c'est juste que, devant tout cela, je ne trouve pas de mots. »
Et en effet, qu'y avait-il à dire? La civilisation humaine avait été une course effrénée de 5 millénaires. Elle n'avait eu de cesse d'accélérer sa cadence, produisant des miracles qui donnaient à leur tour naissance à d'autres miracles. L'humanité avait paru un temps être investie de pouvoirs dignes des dieux, mais elle avait fini par comprendre que le pouvoir, le vrai, était entre les mains du temps. Il était plus difficile de laisser des traces dans un monde plutôt que de le fabriquer. Au crépuscule de la civilisation, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était reproduire ce que leurs premiers ancêtres avaient fait avant eux. Gravé dans la pierre.
Chung-Sin observa attentivement les informations gravées sur les parois. Tout commençait avec un bas-relief représentant une femme et un homme, peut-être pour montrer aux futurs explorateurs du lieu à quoi ressemblaient les membres de l'espèce humaine. Mais la manière dont ce couple était présenté différait de celle de la plaque de pionnier lancée dans l'espace pendant l'ère commune. Sur ce bas-relief, la femme et l'homme semblaient bien plus vivants et apparaissaient davantage comme un Adam et une Ève. Derrière eux avaient été gravés des caractères pictographiques et cunéiformes, peut-être directement copiés à partir de pièces archéologiques anciennes. Maintenant, il était probable que plus personne n'en connaissait le sens. Et si c'était le cas, comment les faire comprendre aux extraterrestres qui viendraient plus tard en ce lieu? Un peu plus loin, Chung-Sin reconnut un poème chinois. Du moins, c'est ce qu'elle supposa d'après la composition du texte, car elle ne reconnaissait aucun des caractères. Elle savait juste qu'ils avaient été tracés dans le style du grand sceau.
« C'est un extrait du Shi Jing, le classique des poèmes, » expliqua Luo-ji. « Là-bas, ces inscriptions, ce sont des passages d'œuvres écrites par des philosophes grecs. Il faut marcher encore quelques dizaines de mètres avant de reconnaître des écritures familières. »
Sous un texte gravé en lettres grecques, Chung-Sin reconnut sur un bas-relief un groupe de philosophes drapés dans leurs toges qui discutaient dans une agora entourée de colonnes. Chung-Sin eut une curieuse impression. Elle fit demi-tour pour revenir au début de la paroi, mais elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait.
« Tu cherches une pierre de Rosette ?» demanda Luo-ji.
« Oui. N'y a-t-il donc aucun système d'aide à l'interprétation du contenu de ces informations ?»«
Mon enfant, ce n'est que de la gravure sur pierre, pas un ordinateur. Comment pourrait-on graver un tel système ?»
A-A balaya les parois du regard, puis elle écarquilla les yeux en regardant Luo-ji.
« Vous voulez dire qu'ont été gravés ici des textes dont nous ignorons nous-mêmes la signification, avec l'espoir que des extraterrestres du futur pourront les déchiffrer ?»
C'était la réalité. Dans un avenir lointain, si des découvreurs extraterrestres se retrouvaient réellement devant ces grands classiques de l'humanité gravés dans la pierre, ceux-ci connaîtraient le même destin que la plupart des grandes œuvres pictographiques et cunéiformes de l'Antiquité. Personne ne serait en mesure de les comprendre.
Peut-être qu'on n'espérait même pas que ces textes soient compris. Quand les bâtisseurs de l'endroit avaient pris conscience du pouvoir du temps, ils avaient cessé de croire qu'il resterait quoi que ce soit de la civilisation à une échelle de temps géologique. Luoji l'avait bien dit, ce n'était pas un musée. Un musée est construit pour des visiteurs, une pierre tombale pour ceux qui l'ont bâti. Tous trois continuèrent à avancer, guidés par les claquements de la canne de Luoji sur le sol. « Je viens souvent flâner par ici, pour réfléchir. » Luoji s'arrêta et, avec sa canne, il désigna un bas-relief représentant un soldat de l'Antiquité en armure et muni d'une lance. « Cette image évoque les conquêtes d'Alexandre le Grand. S'il avait continué un peu plus loin vers l'est, il aurait rencontré les Tsin à la fin de la période des royaumes combattants. Que se serait-il passé? Et à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? » Ils avancèrent encore un peu, et Luoji leur désigna un nouveau pan de la paroi. À cet endroit, les sinogrammes gravés dans la paroi étaient tracés avec un style calligraphique allant du petit sceau à l'écriture des clercs. Nous voici arrivés à la dynastie des Han. La Chine a alors connu deux sortes d'unification, une unification du territoire et une unification de la pensée. Est-ce que cela a été une bonne chose pour la civilisation humaine? Si l'orthodoxie confucéenne n'était pas devenue hégémonique et si la multiplication des écoles de pensée entamées à la période des printemps et automnes avait perduré, que se serait-il ensuite passé? Et à quoi ressemblerait le monde désormais? Il dessina dans l'air un cercle avec sa canne. À chaque tournant de l'histoire correspondent une infinité de rendez-vous manqués. C'est comme la vie, murmura Changxin. Oh non, 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 rétorqua Luoji en secouant vigoureusement la tête. En tout cas pas pour moi, je crois que je n'ai rien manqué. Il regarda Changxin avec bienveillance. Mon enfant, as-tu l'impression d'avoir manqué beaucoup de choses? Si oui, il ne faudra plus rien manquer dans le futur. Il n'y a pas de futur, intervint froidement A.A. Elle se demandait si ce vieil homme n'était pas en train de perdre la tête. Ils arrivèrent au bout du tunnel. En se retournant pour contempler cette pierre tombale souterraine, Luoji poussa un long soupir. Ah! Et dire que ces choses conçues pour être conservées pendant 100 millions d'années ne tiendront même pas un siècle. Qui sait, peut-être qu'une civilisation plate, issue d'un univers bidimensionnel, sera un jour capable de tout voir, dit A.A. Hé hé, tu as de l'imagination, petite. Espérons. Regardez, c'est l'endroit où nous stockons les pièces. Il y a 3 salles de ce genre. Changxin et A.A. virent un nouvel espace, large et ouvert. L'endroit ressemblait moins à une salle d'exposition qu'à un entrepôt de stockage. Les reliques étaient rangées dans des caisses métalliques soigneusement empilées les unes sur les autres et identifiées par des étiquettes. Luoji donna quelques coups de canne sur l'une des boîtes. « Comme je vous l'ai déjà dit, ces objets ne sont pas les plus importants. » Après tout, la plupart d'entre eux ont une durée de conservation inférieure à 50 000 ans, quoique certaines statues puissent être préservées pendant 1 million d'années. Je vous déconseille toutefois d'emporter des statues. Elles ne seraient pas difficiles à déplacer en faible pesanteur, mais elles prendraient trop de place. Bien, à présent vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir. A.A. regarda avec excitation les caisses autour d'elle. Je suggère que nous prenions surtout des peintures. Pour ce qui est des vieux manuscrits, personne ne sera en mesure de les lire. Elle se rendit à proximité d'une caisse où elle pressa sur ce qu'elle pensait être un bouton. Mais la boîte ne s'ouvrit pas automatiquement et n'afficha aucune information. Changxin avança à son tour et souleva difficilement le couvercle. A.A. en sortit une peinture à l'huile. « Les tableaux aussi sont volumineux, » dit A.A. Luoji sortit un petit couteau et un tournevis d'un bleu de travail posé sur l'une des caisses et les leur donna en disant « C'est surtout le cadre qui prend de la place, il faut l'enlever. » A.A. s'empara du tournevis et commença à dévisser le cadre. Changxin poussa un cri de surprise. « Non !» C'était La nuit étoilée de Van Gogh. La réaction de Cheng Xin ne s'expliquait pas uniquement par le caractère précieux de cette œuvre. Elle avait eu l'occasion de l'observer en vrai 4 siècles plus tôt, à l'époque où elle avait rejoint l'agence de renseignement planétaire. Un week-end, elle s'était rendue au Museum of Modern Art de Manhattan et y avait vu cette peinture. Ce qui l'avait le plus impressionné, c'était la manière dont Van Gogh avait représenté l'espace. Dans son inconscient, l'espace avait une structure. Cheng Xin n'était pas spécialiste de physique théorique, mais elle savait que, selon la théorie des cordes, l'espace était une entité structurée par un nombre infini de vibrations émises par des cordes minuscules. Et Van Gogh avait peint ces cordes. Dans sa peinture, l'espace, de même que les montagnes, les champs, les maisons ou les arbres, tout était animé d'infimes vibrations. Et cette nuit étoilée, qui l'avait tant marqué à l'époque, réapparaissait 400 ans plus tard sur Pluton. «
Dévissez les cadres, vous pourrez en prendre plus », continua Luoji, indifférent, en faisant tournoyer sa canne. Vous pensez peut-être que ces objets sont encore inestimables de nos jours, mais ils ne valent plus un sou désormais. »
Alors elles continuèrent à ôter de ces tableaux les cadres qui les accompagnaient depuis parfois 5 siècles déjà. Mais elles gardèrent les châssis pour éviter que les toiles ne se plient et que les peintures ne s'abîment. Elles firent de même avec bien d'autres peintures et, très vite, une grande pile de cadres vides s'entassa dans la salle. Luoji les rejoignit et posa la main sur une petite peinture.
« Celle-là, laissez-la moi, s'il vous plaît. »
Cheng Xin et A.A. décalèrent la peinture et la placèrent sur une caisse calée contre le mur, puis elles s'éloignèrent pour la regarder. Elles furent surprises de voir de quelle œuvre il s'agissait. La Joconde. Puis Cheng Xin et A.A. continuèrent leur travail de dévissage des cadres. A.A. chuchota.
« Il n'est pas bête, le vieux, il a pris la plus chère. »
« Je ne crois pas que ce soit pour cette raison. »«
Tu crois qu'il a aimé une fille qui s'appelait Mona Lisa ?»
Assis à côté du tableau, Luoji caressait la vieille peinture d'une main en marmonnant.
« J'ignorais que tu étais là. Si je l'avais su, je serais venu te voir souvent. »
En entendant sa voix, Cheng Xin leva la tête. Elle vit que les yeux de Luoji n'étaient pas dirigés vers le tableau, mais qu'il regardait droit devant lui comme s'il fixait les abysses du temps. Elle ne sut si c'était une illusion, mais elle crut voir des larmes scintiller dans les profondes cavités de ses yeux. Dans l'immense tombeau du sous-sol de Pluton, sous une lumière blafarde qui devait briller pendant 100 000 ans, le sourire de Mona Lisa jouait avec les ombres. Ce sourire avait dérouté les hommes pendant 9 siècles et, en cet instant, il paraissait plus mystérieux et plus insaisissable encore, comme s'il contenait en même temps tout et rien, comme le dieu de la mort approchant.